Il va nous prévenir.
Le temps de mettre en route un chronomètre parce que je suis très bavarde. Flavio le sait, s'il veut pouvoir parler aussi, il faut que j'ai un chronomètre qui me dise stop.
Oui, pour la... il faudrait mieux les allumer parce que sinon l'écran est trop lumineux, on voit tout blanc sur le...
Alors, quand on a fait les tests tout à l'heure, on a convenu qu'on ferait comme ça et qu'on passerait de toute façon la capture de ce qu'on va montrer à l'écran.
Ah, vous enregistrez ici aussi.
Oui, voilà. Ça, c'est OK pour vous ? Super. Merci beaucoup. Alors, en attendant que Flavio lance le décompte,
je vais
en profiter pour quelques minutes. Pour remercier l'équipe de Tout Libre de nous avoir invités au Capitole du Libre. Ravi d'être dans la ville rose. Pour parler de Blender en tant qu'outil de création libre.
Je commence. Je retirerai.
Alors, on va vous présenter, voilà, nous sommes la moitié d'Effet Spécial. L'Effet Spécial, c'est une scope de production alternative de films d'animation que nous sommes en train de créer à Montpellier. Je ne vais pas aller trop vite parce que c'est Flavio qui va montrer des images. Alors, donc, cette scope, elle va être créée en 2015 par 4 personnes associées. Nous voilà tous les 4, donc Flavio et moi qui représentons la bande. Alors, nous avons travaillé de nombreuses années dans le domaine de l'animation. Pour ma part, Virginie Guilminot, j'ai travaillé, voilà les films sur lesquels j'ai pu travailler. J'ai été formée à Paris 8, ATI, comme Flavio, et François Grassard aussi, qui fait des présentations après nous. J'ai travaillé sur Kaina, La Prophétie, le premier long-métrage 3D en France, qui utilisait 3D Studio Max. Puis ensuite, j'ai travaillé avec Michel Oslo sur Azur et Asmar, puis Les Contes de la Nuit. Azur et Asmar avec l'outil de MacGuff Ligne, qui était un outil maison, qui s'appelait Symbor. Et Les Contes de la Nuit avec Maya. Ah, voilà. Et puis, parallèlement à ça, j'ai collaboré à des festivals, Imagina, Feu Imagina, Les Imagiciens, Festival de Jeunes Créations, Annecy, Festival d'Animation. Puis on reviendra aussi sur Clermont et les festivals du numérique. Alors, avec moi, Eve Machuel, que j'ai rencontrée sur Azur et Asmar.
Pardon.
Donc, Eve Machuel, c'est une productrice de films de prise de vue réelle. Et elle a découvert l'animation avec Michel Oslo au moment d'Azur et Asmar. Puis ensuite, pour les Contes de la Nuit, on avait créé un atelier éphémère. Donc, pendant 18 mois. À 15 personnes au cœur de Paris et juste à côté du domicile de Michel Oslo, on a fabriqué ces animations en pantin, donc silhouette, pantin par plaque animée dans Maya à l'époque, parce qu'on n'avait pas encore rencontré Blender. Ensuite, il y a des garçons, on est en pleine parité, Eric Serre. Donc Eric, lui, vit dans la région d'Arles. Alors, pardon, Eve est à Paris, toujours à Paris. Eric est l'assistant de Michel Oslo, a travaillé avec Michel depuis Kirikou. Mais a aussi travaillé sur plein d'autres choses. Donc, il est illustrateur, animateur, formé Gobelin. Et il vit dans la région d'Arles depuis 12 ans, quelque chose comme ça. Plus récemment, il a travaillé sur... il a supervisé des séquences animées de Il était une forêt, animation 2D au milieu de prises de vue réelles de forêt. Et il a également fait un pilote avec Annelise Keller, qui était la chef déco, directrice artistique de Kirikou et la sorcière, d'Azur et Asmar, qui s'appelle Bonjour le monde, les animaux en papier mâché, là, qui est un projet de série en stop motion, image par image. Il fait aussi des illustrations, on peut le voir sur Contes et légendes de Samouraï. Et pour finir, Flavio, qui est ici présent, donc formé également à ATI, comme moi, mais également à Gobelin, en formation à la production, la gestion de production, a travaillé sur des courts-métrages avec Autour de minuit. Il y reviendra tout à l'heure. Puis ensuite, chez le gros studio Illumination, anciennement MacGuff, où nous avions fait le premier long-métrage de MacGuff, Azur et Asmar, racheté par Universal, devenu Illumination pour faire Moi, moche et méchant, Lorax, etc. Parallèlement à ça, Flavio, avec le TAF, avec le collectif Caravelle, a toujours développé des activités alternatives et artistiques. Et c'est ça qui va nous amener à ce qu'on fait aujourd'hui avec l'effet spécial. Donc le projet d'effet spécial, c'est une scope qui va s'organiser autour de quatre activités principales. La première, alors, la formation, avec une volonté également de mettre en place une formation alternative par rapport aux grosses écoles qui se sont énormément professionnalisées aussi, donc qui sont assez chères et qui ne forment qu'à des logiciels propriétaires du marché. Donc on a un formatage assez général des écoles jusqu'aux studios d'animation. Donc notre souhait est de vouloir pouvoir proposer une formation à Blender en premier lieu. Ensuite, nous allons aussi œuvrer en R&D, et ça, Flavio en parlera un petit peu plus tard, parce qu'il le maîtrise bien mieux que moi. Nous allons également, et nous avons commencé, on va vous montrer deux exemples, à travailler en prestation, donc sur des films de commande, films institutionnels par exemple, où notre but est de fabriquer ces films d'animation essentiellement avec des logiciels libres, et en premier lieu avec Blender, on vient de l'animation 3D. Et l'objectif à terme est d'aller vers la production. Donc petit à petit, de pouvoir financer les propres projets qu'on souhaite faire et les fabriquer de la manière qu'on souhaite. Alors, je vais passer la parole à Flavio, qui va revenir peut-être un petit peu plus sur l'étage numéro 2, tout jaune.
Et sur Blender, en fait, du coup, on va parler de Blender quand même. Est-ce qu'on m'entend ? Oui. Moi, la première fois que j'ai ouvert Blender, c'était à la fin des années 90, au début des années 2000, avec un numéro spécial de Computer Art et des tutoriaux. Et j'ai fait les tutoriaux, j'ai rien compris, j'étais sur 3D Studio Max à l'époque. J'ai fait, oulala, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, j'ai refermé. J'ai rouvert en 2008, je bossais autour de minuit, donc juste au moment où Mathieu Auvray a commencé à bosser sur sa série Babiole. Si vous suivez l'actualité de Blender, peut-être que vous connaissez. C'est une série pour Canal+, qu'il a fait sur Blender. Donc il bossait dans la salle d'à côté, moi j'étais en production à l'époque, hein. je faisais plus de technique à ce moment-là, mais j'étais très curieux de voir ça, c'était Blender 2.4 encore, donc c'était encore un peu dur à assimiler, mais j'étais très content de voir qu'on pouvait utiliser en production, que quelqu'un utilisait en production en France en plus, donc, et à côté de moi, donc c'était assez cool. Et la troisième fois que je l'ai ouvert, en fait, c'était il y a un an et demi, j'ai rejoint un studio Inefecto qui est à Montpellier, et on a mis en place la Colo Blender. En fait, c'était avec six stagiaires de Paris 8, d'Arrêt Technologie de l'Image, d'où je viens et j'enseigne aussi, et d'où Virginie vient. On a mis en place, avec le studio Infecto, sur un projet d'Étienne Pécheux, qui est à gauche sur la photo, ATI 91, donc il y a un moment, qui était mon responsable à MacGuff, accessoirement aussi. Eric Serre, qui est au milieu sur la photo, qui est un des membres d'Effet Spécial, et six stagiaires. Donc Christophe Seux, pour ceux qui ont entendu parler de lui dans l'actualité Blender aussi, en t-shirt noir à gauche. Au premier plan, c'est Damien, mais je reviendrai sur Damien parce qu'il nous a pas mal aidé encore sur les projets que je vais montrer juste après. Et il y avait Lucille de l'ESMA qui était là, il y avait une autre Lucille d'ATI. Enfin, c'était un petit groupe de 6-7 personnes et c'était assez cool pendant 3 mois. On est parti sur ce projet, le jour et la nuit. Donc il y a un style graphique assez spécial que le réalisateur voulait absolument garder. Il y a une influence des estampes japonaises, et donc je vais vous montrer quelques exemples. Et l'idée, c'était de garder aussi essayer de garder au plus ce style. C'est juste un moment où Freestyle a rejoint Blender en plus, donc c'était intéressant. On s'est dit, bah, tiens, on va l'essayer, on va voir comment on peut jouer avec les contours. Donc ça, c'est les dessins d'Eric Serre, qui est un de ceux qu'on a présentés juste avant. Je passe sur le scénario. Mais vous pouvez voir un extrait de ce qui a été fait l'été dernier sur le site de Inefecto. Je vais vous montrer le début. Le but de cet atelier qu'on a fait il y a un an et demi, donc pendant l'été, c'était vraiment d'essayer Blender, de voir en tant que studio de production, Inefecto existe depuis 8 ans et travaille avec Maya. en tant que studio de production, est-ce qu'on peut utiliser l'outil? Qu'est-ce qu'on arrivera à y faire? Est-ce qu'il y a des choses qui nous limitent? Alors tout de suite, on a eu des soucis avec le système de liens. Pour ceux qui connaissent, qui utilisent beaucoup Blender, quand on travaille entre plusieurs fichiers, on crée des liens. Là, on pouvait que faire des liens sur l'animation, mais on ne pourrait plus rien faire au niveau de freestyle, par exemple. Tout était bloqué. Donc, on a eu des limites sur ce genre de questions. C'est là que moi, c'est là que ça m'intéresse, moi, de vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire. Surtout que utiliser Blender en production, quand on n'est plus tout seul et qu'on est dans une équipe, on va devoir se passer des fichiers, on va devoir mettre en place une nomenclature, une structure, un pipeline, vraiment, donc une façon de travailler, d'organiser les choses. Et s'il y a des limites, il faut qu'on les connaisse avant de pouvoir avant de mettre les mains dedans. Donc ça, c'était le but de cette première call au Blender. Cette année, on a remis ça avec un groupe plus restreint, encore d'étudiants en ATI, mais pour une partie développement, là, on a vraiment créé des outils pour Blender, pour l'intégrer dans le pipeline, la façon de travailler du studio Inifecto, pendant qu'un autre groupe d'étudiants qui, eux, venaient de l'ESMA, et Christophe Seux, qui supervisait la partie image, créer des images et tester nos outils en même temps. Donc, ça a été assez intéressant. Nous, aujourd'hui, avec l'effet spécial, on veut vraiment créer notre façon de travailler autour de Blender comme logiciel principal pour la 3D. De logiciels libres de façon générale pour la 2D avec Krita, Gimp, éventuellement SyncFit si on doit faire de la 2D. Enfin, il y a différentes choses. Autant que faire se veut parce qu'il y a encore des logiciels comme After Effects n'ont pas encore d'équivalent libre et ça pose quelques soucis. Mais je vais y revenir. Donc ça, on l'a vu. Et là, on va parler d'un projet qu'on est encore en train de finir. Donc là, c'est Virginie qui reprend la parole.
Alors, c'est un partenariat avec l'équipe du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, qui doit avoir ce festival 37 ans, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment une équipe d'étudiants en cinéma, passionnés de courts-métrages, qui ont créé l'association Sauf qui peut le court-métrage. Donc moi j'avais eu l'occasion de travailler avec eux, de participer au festival de Clermont. Donc il y a 3 ans, quand j'ai travaillé chez Inifecto, on a mis en place un partenariat avec le festival en leur proposant de faire une petite animation qui débouchera sur l'affiche de l'année. Il faut savoir que chaque année, ils confient la création de l'affiche à un illustrateur de livres, de bouquins, de bandes dessinées. Cet artiste, cet illustrateur, participe à l'édition précédente du festival, se baigne, voit des films, etc. et sort un premier brouillon, un premier jet d'affiche à l'issue du festival. Puis il met tout ça en forme. Donc chaque année, il y a vraiment une identité graphique différente. Et puis alors après, je suis de l'année dernière. Ensuite, ils font toute la com, les sacs, tous les projets avec des extraits de l'affiche. L'année dernière, il y avait une mouche. Et cette année, pour l'édition 2015, c'est un artiste qui s'appelle Blex Bolex, qui a fait des très beaux ouvrages. Alors, c'est toujours pour appuyer ce côté-là, Blender, outil de création. Ça veut dire qu'on est plutôt dans du rendu non réaliste, vous l'avez bien compris. Et l'idée à chaque fois est de se fondre dans l'univers graphique d'un auteur, d'un artiste. Et comment on va pouvoir utiliser ce logiciel et à la manière dont on nous l'a enseigné à Art et Technologie de l'Image pour faire plier l'outil, pour lui faire faire les images qu'on souhaite. Donc c'est vraiment toujours l'auteur qui va décider ce qu'on fait. Donc là, Damien, dont parlait Flavio a beaucoup travaillé sur ce projet, donc on s'est retrouvés. On va peut-être aller faire un petit tour dans le Tumblr. Voilà, il s'est amusé. Donc vraiment, Damien, c'est aussi, il vient de terminer son cursus ATI, et on va comme ça survoler différents tests. L'idée était d'arriver de toute façon au rendu qui correspond à l'affiche. Hein, on a un cadrage horizontal pour que ça convienne au format. Cinéma, et puis le générique est ensuite projeté au fil des séances, en soirée de clôture, etc. Et donc, on s'est retrouvé à faire, alors contrairement au jour et la nuit, où les recherches avaient été plutôt de l'ordre de l'art japonais ou inuit, les estampes, etc., là, on se retrouvait à chercher comment faire de la sérigraphie animée, quelque part. Donc, on a testé aussi, on avait envie d'animer l'eau, on avait envie d'animer les nuages. L'avion fait de la fumée derrière lui. La fumée, alors, à chaque fois, il a essayé, avec ses commentaires. Il a essayé à chaque fois d'essayer différentes choses. Donc c'est très expérimental et c'était le but du jeu. Donc il y a eu des tests de nuages comme ça. Et puis finalement, alors c'est l'apport et l'enrichissement aussi de travailler avec Eric Serre, un quart d'effet spécial. C'est qu'Eric vient vraiment de l'animation 2D traditionnelle et donc a l'habitude de bidouille où il suffit de mettre quelque chose sous la caméra. Et donc on est constamment... moi, ça m'a vraiment fait du bien de travailler avec quelqu'un comme Eric et depuis l'époque d'Azure et Asmart, se dire on n'est pas dans la fascination de l'ordinateur ou du logiciel, mais on est vraiment dans... toujours à garder présent à l'esprit le film qu'on veut faire à la fin. Donc, on a fait plein de tests de nuages, par exemple, pour arriver à la fin à se dire qu'on allait en découper, qu'on allait faire des plaques, un peu comme des multiplanes. En revanche, l'avion est modélisé en 3D. Les personnages, c'est pareil, ils sont à moitié modélisés, un peu des plaques pour les animer un petit peu. On s'en fiche, on fait du cinéma. L'essentiel est que dans l'image finale, ça fonctionne. Donc, on s'est amusé avec tout ça. Alors, je remercie Eric Vojdic et l'équipe de Clermont de nous avoir autorisés à montrer ces images et ces tests parce que le film n'est pas encore livré, il n'est même pas encore sonorisé. Là, on peut peut-être en regarder une version en 20 secondes. On va la regarder vite fait, mais elle sera dévoilée et utilisée au festival début février à Clermont-Ferrand. Alors, il y a encore des choses à retoucher hein, dans l'image, mais voilà, l'exercice est vraiment très intéressant parce que comme l'artiste a carte blanche pour créer l'affiche, de la même façon, nous, dans ce partenariat avec Clermont, on a carte blanche pour faire 30 secondes et qu'on remonte aussi en 20 pour faire vivre et raconter une petite histoire pour arriver à l'image de communication. Donc là, sur cet exemple-là, et l'effet, la scope n'étant pas encore créée, on est dans les premiers mots de la ligne éditoriale d'effets spéciaux. L'idée est vraiment d'avoir comme ça une esthétique à chaque fois très, très appuyée en fonction des projets. Dans ce cas précis-là, ces exemples-là, on a travaillé sur l'eau, sur l'écume, l'écume autour du bateau. Ça n'est pas du tout de la simulation, ça n'est pas du tout des particules. On a fait des tests aussi, mais l'idée est de faire des subterfuges toujours. Donc, mais sur cet exemple-là, on a utilisé essentiellement Blender. Alors, ce n'est pas le cas de l'étude de cas suivant où le projet n'était pas censé faire appel à Blender. Mais finalement, on en aura eu besoin.
Oui. Alors, sur celui-là, je vais vous montrer des petites images d'abord pour commencer. C'est un projet qu'on a fait là, à la fin de l'été. C'est un film de 4 minutes pour un musée qui se trouve à côté de Arles. Là-bas, il y a un endroit qui s'appelle la Steppe de l'Acro. C'est un endroit un peu unique en Europe, la seule steppe d'Europe de l'Ouest, en fait, avec son biotope très particulier. Et la légende dit que Hercule est passé par là, qui s'est fait attaquer. Alors, à l'époque, c'était une forêt, qui s'est fait attaquer par des ennemis. Et qu'à court de flèches, Zeus est venu l'aider et a lancé une pluie de rochers sur l'armée ennemie, ce qui a fait que ça a changé complètement la région. Et maintenant, c'est une sorte de grande plaine comme ça, avec des gros rochers partout. En fait, géologiquement parlant, c'était l'ancien lit d'une rivière. Hein, mais vous ne pouvez pas que je le dise ? Non, c'est Hercule. J'ai cassé...
Et c'est là qu'habite Saint-Martin-de-Croix, c'est là qu'habite Eric Serre. Donc il se demandait d'où venaient ces rochers.
Je passe juste le début, j'avance. Le début raconte la légende. Alors c'est en grec ancien, d'accord ? Soyez pas surpris.
Ope alcminis, clifi miracles, tonda profeno. Πλέον προς εσπερίδων ακτίν, ίξις δελιγίων εις ατάρβητων στρατών. Εν θου μάχης σαφίδα και θούρος περών μέμψη. Πέπρωτε γάρσε και βέλη λυπήν.
Από κραμμένοι.
Daf Celeste, d'où t'in équies lithonexis.
Alors, je ne peux pas vous montrer plus d'images parce que le musée nous a dit on peut montrer, mais pas tout le film. Donc, vous pourrez aller le voir sur le site du musée. Enfin, sur le site, non, sur, au site du musée, sur place. Ce projet-là, en fait, il a été commencé, enfin, il a été fait sur After Effects. Donc, là, c'est la technique de, des pantins en papier. Vous savez, comme quand on est petit, on découpe des morceaux de pantins, on met des attaches parisiennes. Et on peut animer après, on peut bouger. Donc là, c'est la même technique dans After Effects. On a des IK, des FK, comme on a vu tout à l'heure pour le rigging. Donc c'est assez pratique pour animer. Le choix de la technique est aussi lié au budget qui était proposé qu'on avait pour faire ce film. On ne pouvait pas faire de la 3D parce que ça prenait beaucoup trop de temps. Donc on est parti sur des éléments plus simples, tout en ayant un univers graphique assez riche. Mais c'est posé la question du premier plan. En fait, le premier plan, je vais le montrer en storyboard. Pardon. Ici.
Donc enfin, vous connaissez peut-être le storyboard, c'est la première étape pour fabriquer un film. Enfin, à partir du scénario, on fait comme une bande dessinée qui figure déjà les plans qui vont être dans le film.
Donc, cette séquence d'intro, c'est une sorte de mouvement de caméra qui montre d'abord l'espace, après on voit un char qui représente la Lune, qui rentre dans le champ. On va se rapprocher de ce cercle. Donc, il y a deux c'est Athéna, on les voit au milieu, qui sont les parents d'Hercule. Je ne peux pas de bêtises. Et ce cercle qui représente les 12 travaux sur lesquels il est en ce moment. Ensuite, on rentre, on voit une carte de l'Europe, de la Méditerranée plutôt, où on voit le parcours d'Hercule. Ce plan, il devait être fait sur After Effects, mais le problème, c'est que les mouvements de caméra, l'espace 3D d'After Effects est horrible à gérer, les mouvements de caméra sont horribles. Le fichier Photoshop qu'on nous a passé, parce que c'était fait sous Photoshop aussi à ce moment-là, c'est un fichier énorme, c'est 15 000 par 15 000 la résolution, avec tous les layers, tous les éléments qu'on voit là, c'est des layers qui ont été faits à cette résolution-là par le graphiste. Le graphiste travaille toujours en grosse résolution. En fait, dans le film, par exemple, tous les ennemis sont faits aussi sur des gros layers de 6 000 par 6 000, parce qu'il est habitué à ce qu'en fin de production, on dise « Ah, et si on imprimait ça ?» Et le problème, c'est que si tu fais le layer tout petit, quand tu veux imprimer avec la résolution de l'impression, c'est foutu. Donc, ils travaillent toujours en grand avant, ce qui pose aussi des problèmes de poids technique et tout ça, pour pas avoir de surprise. Donc, c'est très bien, mais ça peut poser des soucis. Donc, ce plan-là, on a dit, bon, on va le faire dans Blender, ça tombe très bien. On avait un premier problème. Enfin, le problème le plus intéressant, parce que créer des plaques dans Blender et faire un mouvement de caméra, c'est pas le truc le plus compliqué. Ce qui était intéressant, c'est que quand on a sorti le fichier Photoshop en différentes couches, on s'est retrouvé avec toutes les couches qu'on voit ici, les PNG, et vous pouvez voir le poids des PNG ici qui correspond. Donc on a pas mal de gigas juste pour... On a un fichier qui pèse 800 mégas juste pour un des layers. 800 mégas d'un PNG dans la RAM de la carte graphique, c'est un peu la crise. Alors, il y a un truc qui est très cool à faire avec Blender. On va faire un peu de Blender. Donc là, on les voit pas pour l'instant, parce que si je les affiche, justement, si j'affiche les textures maintenant, là, ce petit Mac, en plus, il n'a pas de carte graphique, donc peut-être qu'il les affichera dans une demi-heure. Mais, donc, en fait, un des trucs qui est très cool avec Blender, c'est le scripting. Et ça, tout à l'heure, il y aura un talk dessus, donc ça va être intéressant. Mais là, avec ces quelques lignes de code, là, avec 10 lignes de code, ce que je fais, c'est que je fais une copie de l'image. Je la réduis à 10% de sa taille, donc je fais un tout petit PNG. J'enregistre le proxy sur le disque, en plus, pour y avoir accès après. Et je fais des remplacements automatiques. Et la deuxième partie qui est commentée ici, c'est l'inverse. Elle remet les fichiers originaux au moment où j'ai besoin de faire les rendus, d'accord ? Donc là, je vais lancer ça. Alors, ce script, on le doit à Damien aussi, qui a aussi travaillé sur... donc, Damien Picard, qui a travaillé sur Clermont. Donc, je vais lancer ça. Et on va voir qu'ici, au fur et à mesure qu'il va trouver les textures, si je ne me suis pas planté, ouais, vous avez a priori, voilà, on voit les proxys qui vont commencer à arriver. Donc, c'est les fichiers qui ont le même nom, mais qui finissent par proxy. Il est en train de bosser, voilà, proxy, Zeus. Donc voilà, par exemple, on voit la différence de poids entre les deux images, d'accord ? Parce que c'est un Zeus qui fait que 10% de l'autre, mais le fait qu'il y ait beaucoup moins de pixels fait que c'est très léger. Donc, on se retrouve avec des images très légères. Et une fois qu'il aura fini, du coup, il aura switché automatiquement mes textures sur ce proxy et je pourrai les afficher très rapidement, travailler, animer le plan comme je veux. et travailler. Je veux dire, on ne peut pas travailler avec un temps de latence de plusieurs secondes, le temps que je bouge la caméra, ce n'est pas possible. Donc c'est, moi, c'est ce genre de choses que j'apprécie aussi énormément dans Blender, c'est que l'API, par exemple, l'objet image, l'objet texture, est un objet de la façon de programmer de Blender. Donc je peux la manipuler juste en faisant l'image, le scale de l'image, c'est un objet, enfin c'est une fonction à laquelle j'ai accès, je peux la modifier très facilement. Ça, pour quand on est dans les studios et qu'on a des équipes de gens, moi j'étais à MacGuff, j'ai pas fait moi chez méchant tout seul, on était 300-400. Moi j'étais TD, j'étais entre les développeurs et le reste les 300 graphistes. Quand on n'était pas en train de faire du support sur les différents logiciels de MacGuff, Maya entre autres, Nuke, on était en train de créer des outils. Et c'est le genre de choses qu'on fait tout le temps, des petits scripts comme ça. Il y a des équipes de gens dans les studios parce qu'il en faut tout le temps. Donc là, c'est fini. Donc maintenant, si tout se passe bien, je peux afficher. Voilà, j'ai mes j'ai oublié un truc. Ça m'a fait des JPEG en fait. Désolé, je ne vais pas recommencer la manip, mais la transparence a sauté. Mais en gros, je peux afficher et maintenant travailler quasiment en temps réel. Sur le mouvement de caméra et sur ce qui va se passer, les différentes étapes. D'accord ? Pour ceux que ça intéresse, le truc que j'ai oublié de cocher, c'est... Ah bah si, c'est en PNG. Bon, il y a un... Je sais pas. Il faut que je vérifie, désolé, l'effet démo. Donc là, on peut voir qu'il y a une structure, enfin, c'est une scène très grande avec un objet qui est très loin pour que le ciel ne bouge pas. Enfin, on joue beaucoup sur la parallaxe, ce genre d'éléments, d'accord ? Voilà, à part ça, c'est comme du motion graphisme, on anime les différentes plaques, on se déplace. Le fait que, après, je peux re-switcher sur la grosse résolution, bon, ce que je fais, c'est que je cache ça, je me remets en solide, je dis rebascule-moi sur la grosse résolution des images, et là, je peux faire mon rendu. Le rendu, que ça me prenne de la RAM au moment où je fais le rendu, je m'en fous, il peut prendre le temps qu'il veut, et encore, c'est pas très rapide. Là, c'est assez rapide, puisqu'il n'y a pas de lancer de rayon ou de lumière complexe. Donc là, il peut prendre de la place dans la RAM, ça ne me dérange pas et j'ai plus besoin d'être interactif dessus. Donc on peut faire ce genre de choses et on en fait beaucoup et c'est très cool. Je vais remettre l'extrait, comme ça vous voyez ce que ça donne au final. Non, c'était pas... je me suis perdu.
Donc le film tourne... J'ai la perpétuité tout le temps à l'entrée du musée de l'accro en région PACA.
Donc voilà, on revoit les. Bah là, ça sort de Blender. Bon, il y a eu des petites retouches après colorimétriques, mais rien de méchant. C'est ce qui sort de Blender à 99% là pour le coup. Avec tous mes layers, toutes les couches qui sont animées, tout est là. Xis de Legion is atarviton straton. Et ah oui, je passe très près de l'élément PNG, j'ai pas de pixelisation. Alors après, on peut discuter, on aurait peut-être pu faire ça avec de l'image vectorielle, il y a plein de choses. Maintenant, il faut que ce soit en place dans la façon de travailler, il faut que le graphiste qui le fasse puisse faire ça, il faut que les formats soient compatibles, mais il y a plein de discussions à ce propos. Voilà. Oui, c'est à toi.
L'idée, là, c'est deux exemples, donc vraiment, on va dire, avant qu'on soit vraiment en situation de travailler comme on souhaite le faire. Mais l'idée est d'avoir une utilisation la plus répandue et la plus fréquente de Blender. Pour l'instant, Eric a des habitudes encore sur la suite Adobe. Mais ça va lui passer. Et par exemple, on a fait, il est dans la salle avec Philippe Giffard, on a fait 5 jours de découverte de Blender. On a mis en place ce stage à Montpellier, où que ce soit Flavio qui maîtrise très bien Maya, qui connaissait Blender, ou Eric qui n'avait jamais fait de 3D de sa vie. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc c'est quelqu'un qui dessine très très bien, c'est quelqu'un qui parle la 3D parce qu'il est capable de superviser l'animation 3D sur Azure et Asmar, par exemple, l'anime de personnages, il connaît très bien l'animation en volume aussi, mais il n'a jamais pris une souris pour faire autre chose que de la 2D. Maintenant, il dessine, il storyboard, il fait du montage, tout ça sur l'ordinateur, mais pas pour faire la 3D. Donc, grâce à Philippe, très bon formateur, Il s'est retrouvé à aller manipuler la souris. Et donc, on sait très bien, et pour avoir fait les contes de la nuit, qui sont des plaques un peu sur ce principe-là, des pantins, on sait que c'est possible. Simplement, là, on n'en avait ni le temps, ni l'argent, c'est souvent lié. Mais dans nos intentions, il y a celle de faire des pantins, un système de pantins, comme ça, qui nous permettent de faire du papier découpé aisément. Et Eric, maintenant, il a aussi entreaperçu... plein de possibilités avec l'outil Blender, par exemple, pour sortir... dans les étapes, le storyboard, alors vous les connaissez peut-être, mais juste par rappel, donc il y a le scénario. Ensuite, pour un film d'animation, on a d'un côté le storyboard qui dit déjà quel plan il va y avoir, comment ils vont s'enchaîner. Et sur un long métrage, on peut avoir, par exemple, 1500 plans. Et après cette étape de storyboard, il y a également d'un autre côté la création des modèles des personnages où on va bien voir comment ils sont, les faces profils trois quarts, les personnages qu'on va fabriquer qui vont jouer dans ces plans. Et l'étape d'après, terme qui vient de l'animation traditionnelle, s'appelle le layout, donc c'est la mise en place des différents plans qui vont nous permettre ensuite d'animer, de faire toutes les étapes. Alors ensuite, la production en elle-même, la fabrication du film, il y a ce que montrait Julien tout à l'heure, donc on va modéliser les marionnettes, les personnages, on va leur mettre un squelette, on va faire le rigging, etc. On va leur mettre des textures, ça c'est d'un côté, on prépare les éléments du film, les assets, et puis de l'autre côté, avec le layout, on a tous les plans qui vont faire le film. Et généralement, ce qu'on faisait, c'était qu'on allait scanner les différentes vignettes du storyboard pour faire déjà un premier layout 2D, une espèce d'animatique où on met les vignettes à la longueur, où on peut enregistrer des voix maquettes pour dire les dialogues, pour se rendre compte de la continuité du film, mais avec des dessins, hein, comme une BD, mais figée. Et là, ce qu'a entrevu Eric et ce sur quoi on travaille en ce moment, c'est d'imaginer un layout un peu hybride où déjà on va aller utiliser la 3D avec Blender, et c'est ça qu'il a expérimenté déjà dans cette semaine de formation, c'est de se dire, bon, avec des volumes de mise en place de décors un peu sommaires, en plaçant une caméra, en gardant les dessins des personnages sur des plaques, est-ce qu'on peut déjà avancer un peu plus loin sur la mise en scène? Donc c'est vraiment, on sent vraiment tout le potentiel qu'il y a. Et justement, outre l'activité donc de prestation, de film de commande, ce souhait de former, comme on l'a fait là avec Philippe, qui est un complice très proche, pour l'instant, on s'adresse beaucoup aux gens d'ATI, vous avez entendu ce nom-là, mais à notre connaissance, c'est la seule école, à l'université française, qui enseigne Blender par François Grassard qui intervient tout à l'heure. Et sinon, on a beaucoup d'électrons libres, de gens autodidactes, ou de, voilà, un peu difficiles à capter ou à structurer. Donc il y a la formation pour petit à petit rassembler des collaborateurs avec qui, parce qu'un film, d'autant plus un long métrage, ça ne se fait pas à 4 ou 5 illuminés. Et donc il y a cette formation, la R&D, Flavio va y revenir, et pour passer des films de commande qu'on commence à faire là pour expérimenter, pour s'emparer mieux de l'outil, il y a aussi ce qui s'appelle la pré-production. Donc ce que je vous ai raconté là, quand on va jusqu'au layout, c'est tout ce qui permet de préparer le mieux possible pour qu'ensuite le long métrage qui, dans le meilleur des cas, va prendre 18 mois de fabrication, quand on sait le film qu'on veut faire, quand on va fabriquer les 1500 plans, eh bien, cette période de pré-production, par exemple, là, avec Blender, justement, on est en train de travailler, de réfléchir avec Michel Oslo sur son prochain film pour voir en quoi l'utilisation de cet outil va nous permettre de préparer au mieux, d'économiser, bien entendu, des coûts de fabrication et de voir comment on va hybrider les techniques pour faire le film qu'il souhaite, mais de manière la plus commode possible. Et à terme, on ira jusqu'à la production. Donc, je vais repasser la parole à Flavio, peut-être pour développer un petit peu justement cette partie R&D et Blender.
Oui, moi je voulais juste ajouter sur le layout, une part importante du layout, plus que l'animatique 2D, qui est l'animatique qu'on fait à partir du storyboard, c'est vraiment de se rendre compte des problématiques de caméra dans l'espace, du temps que ça prend pour un personnage de traverser. Parce que quand on prend juste une image qu'on a fait glisser sur. Un dessin de storyboard qu'on le fait glisser, on ne se rend pas compte si la foulée du personnage, par exemple, va permettre que ce personnage traverse l'écran en une seconde ou s'il lui faut plutôt deux secondes. Donc le layout 3D, c'est là qu'il va intervenir aussi beaucoup pour se rendre compte de ce genre de problématique. Est-ce que le personnage est assez grand ou le décor est assez grand dans la scène ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment là qu'on a envie de pousser les choses. Et notamment sur le projet de Michel Oslo, il y a un gros travail autour de la photo parce que les décors, il y a un gros travail autour de la photo pour les décors. C'est là qu'on peut faire aussi beaucoup de choses avec Blender très rapidement, de projection, des choses qu'on peut faire aussi dans Maya, mais il y a des choses qui nous intéressent beaucoup dans Blender. Par exemple, le layout, les personnages, on ne va pas les modéliser de façon définitive, surtout qu'ils sont encore peut-être en recherche. On va faire des modèles rapides, mais ce qu'on peut utiliser après, au moment où ça nous intéresse, c'est le Grease Pencil, qui est l'outil dans Blender pour dessiner. Mais on va pouvoir commencer à déjà poser des expressions ou que quelqu'un comme Eric, qui est animateur à la base, connaît bien le travail 2D, le travail de silhouette, peut venir par-dessus dans la scène Blender et dire non, cette position, elle sera comme ça, et donner des informations au prochain département pour dire ah oui, ça va être intéressant, il faut aussi prévoir que le personnage se déforme comme ça. Donc on veut essayer de profiter de ce genre d'outils aussi au maximum pour améliorer la partie layout. Pour la partie R&D, ça c'est un truc pour lequel nous on s'engage, au fait spécial, c'est que. On utilise Blender et on utilise aussi des fonds publics. Quand on est aidé en production par le CNC, par exemple, ça reste des fonds publics. Et c'est logique qu'on rende à la communauté et à ceux que ça intéresse quelque chose en échange. Donc nous, on a décidé que tous les outils qu'on allait développer en l'état, alors il y en a qui ne seront pas utilisables en dehors de notre façon de travailler, ou alors ça sera intéressant pour étudier le code, seront disponibles. Le contenu des films est protégé par le droit d'auteur, ou alors si on travaille pour un client, on ne peut pas rendre, par exemple, Héraclès, je ne peux pas donner les images parce qu'elles appartiennent à un musée. Par contre, les outils qui nous ont servi à faire ces images, nous, c'est important pour nous qu'elles soient disponibles. Donc là, on a commencé, sur le site web, pour l'instant, il n'y a rien dans cette partie-là, logiquement. Mais si vous revenez dans quelques semaines ou quelques mois, dans la partie libre, il y aura tous les liens qu'il faudra au fur et à mesure pour accéder à notre repo GitHub ou aux différents outils. Moi, je suis allé à la Blender conférence avec quelques personnes qui sont ici, là, il y a deux semaines. Je suis allé très vite discuter à propos, alors pour ceux qui ont entendu parler du projet Red Current, qui est le projet de Blender, de la Blender Foundation pour l'asset management, qui est la gestion des fichiers dans un gros projet. Mais aussi le suivi de production, donc le suivi de tâches, qui fait quoi, pourquoi, comment c'est fait, ou après la partie render farm et tâches automatisées. Moi, dans mes cartons, j'avais développé un outil de suivi de production. Quand j'étais à MacGuff, un de mes gros chantiers, c'était de lier l'asset manager de MacGuff à l'outil de suivi de production qui s'appelle Shotgun, qui est un énorme outil utilisé par une grosse partie de l'industrie. C'était très intéressant, sauf qu'un Shotgun n'est pas libre, loin d'être libre, et très cher. C'est 50 € à peu près par utilisateur et par mois. Donc, quand tu as 100 utilisateurs, ça commence à faire un vrai budget. Et surtout, c'est une boîte noire, donc on n'a pas accès à ce qui se passe dedans. Et moi, je voulais développer quelque chose dans ce sens-là. Et quand je suis allé discuter avec les gens de la Blender Foundation, eux, ils avaient préparé un gros cahier des charges pour la partie asset management, un gros cahier des charges pour la partie gestion des tâches automatisées. Mais ils n'avaient aucune idée pour la partie gestion de production parce qu'ils n'ont jamais fait. Ils n'ont jamais eu vraiment à faire une sorte de gestion de production un peu poussée. Et là, ils en ont besoin pour Gooseberry parce que c'est un projet de long métrage quand même. Donc, leur projet actuel, comme on parlait tout à l'heure de Tears of Steel ou d'autres, ils sont en train de faire un nouveau projet avec Mathieu Auvray, qui était celui qui a fait Babiol que j'ai montré tout à l'heure. Ils n'avaient aucune idée. Donc, moi, ça m'intéresse de me placer à cet endroit. Moi, ça m'intéresse d'utiliser votre asset manager parce que je n'en ai pas. Mais ça m'intéresse de développer cet outil. Et si ça vous intéresse, on bosse ensemble et on fait quelque chose. Donc, c'est là que moi, je suis en train de finir de rédiger le cahier des charges pour cet outil que je vais envoyer à Francesco de la Blender Foundation pour qu'on en discute. Si ça leur va, moi, je vais commencer à bosser dessus. Si ils peuvent mettre un coup de main à un moment donné, moi, de toute façon, j'en ai besoin, donc autant qu'il serve à tout le monde, cet outil, au bout d'un moment. Donc, on va le développer. C'est l'idée, dans l'effet spécial, de développer aussi cet outil. Et de rendre à la communauté quand même. C'est très important de ne pas garder pour nous ce qu'on a fait. Les outils, on a mille façons de les réutiliser de toute façon. Donc, on pense pas qu'on se met en danger à partager ça. Et après, c'est vrai qu'il y a un travail de rendre l'outil accessible à tout le monde parce que des fois, il est codé rapidement. Il faut faire une nouvelle version qui va être un peu plus propre, qui ne va pas dépendre d'un environnement de variables trop complexe à gérer en dehors. On va essayer de faire un peu d'effort quand même de ce côté-là. Après, il y a des outils, un script qui ne pourra pas marcher en dehors, mais ça sera intéressant de dire, voilà, il fonctionnait comme ça, si vous le reprenez ce morceau de code et vous l'adaptez, pour nous, c'est important.
C'est cette idée de transmission aussi. Pour certains, Flavio est le plus jeune d'entre nous, mais ça fait plus de 20 ans qu'on travaille dans ce milieu-là et qu'on a eu plusieurs expériences sur des longs métrages d'animation. Donc il nous semble qu'aujourd'hui, le logiciel Blender a atteint une maturité, une stabilité qui nous permet de l'utiliser en production. C'était à l'origine, il y a un an et demi, le test de la Colo Blender pour voir si c'était assez stable pour s'en emparer. Après, il manque toute cette structuration dont parle Flavio. Il y a tellement de données à manipuler sur un long métrage d'animation qu'il faut, il faut s'appuyer sur des expériences qu'on a pu avoir pour l'emmener un pas plus loin. Alors, peut-être il nous reste quelques minutes si vous avez des questions. N'hésitez pas, sinon je...
On peut continuer à parler.
Je voulais juste ajouter dans ce cas un petit mot sur l'aspect développement durable qui nous tient à cœur en ce moment, enfin sur le projet d'effet spécial. On est actuellement, depuis début septembre, accueillis en pré-incubation, c'est-à-dire c'est une espèce de comme une pépinière, mais d'innovation sociale. Et c'est très important parce que depuis nombre d'années où on travaille et où on a flirté avec ce qu'on appelle encore parfois des nouvelles technologies, qui ne sont plus du tout nouvelles, mais à l'époque de Kaina ou des choses comme ça, vraiment au millénaire passé. Donc là, ce qui est essentiel pour nous, c'est justement de défricher du côté innovation sociale. Parce que... Donc on est en pré-incubation, on repasse en jury en décembre pour savoir si on sera admis en incubation au sein d'Alter Incube, qui est une structure Montpellier-Rennes, ce qui nous permettrait de profiter de leur soutien, de leur accompagnement, de leurs conseils, de leurs aides de formation pendant l'année 2015 pour créer cette société coopérative de production. Alors... Donc, l'intention sociale, c'est de travailler sous forme de scope. Donc, c'est vraiment une autre façon de penser la société aussi en termes de gouvernance, de décision démocratique, de partage des bénéfices avec les salariés, de réinjection dans l'outil de travail. Donc, toute cette dimension-là est très importante et va dans le sens de ce qu'expliquait Flavio de la communauté du libre et de ce qu'on développe et de ce qu'on partage. Il y a également un aspect dans le développement durable d'écologie où on est en partenariat avec Carnot Computing, peut-être que certains les connaissent, qui sont les radiateurs qui calculent en chauffant des logements sociaux, par exemple. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc, ils vont offrir le calcul aux utilisateurs de Blender, par exemple, de Natron aussi. Mais on est en train de voir avec eux, parce que souvent, ce qui pénalise les utilisateurs de logiciels comme Blender, c'est qu'on va être en électron libre chez soi, en train de faire 2-3 images fixes. Et puis, dès qu'on va vouloir faire une animation et quelques plans, et pourquoi pas un court-métrage, et bon, bah là, on se retrouve à avoir besoin de puissance de calcul, et ça peut manquer. Avec leur système, on peut donc sous-traiter auprès d'eux du calcul, et ça devient quelque chose de très intéressant. Donc, on est en discussion avec eux depuis longtemps, on met en place la chaîne. Une autre structure qui est au sein de ce même Alter Incube, là, le pôle réaliste qui est à Montpellier, qui s'appelle Enercop, qui permet de produire de l'énergie renouvelable. Donc l'idée aussi est de produire l'électricité dont on va avoir besoin pour faire tourner nos machines. Et pour finir, pourquoi pas un partenariat avec l'association Cévennes Libres qui propose des ordinateurs solidaires. Donc, qui récupèrent des parcs informatiques, par exemple, d'université de Montpellier, et qui les revendent d'occasion. Donc, pour voir comment, sur toute la chaîne, pour fabriquer un film, un long métrage d'animation, comment on fait pour avoir tout un écosystème où, à chaque endroit, on se soucie d'être social et d'être solidaire. Voilà, c'est l'ambition de notre projet. Pour faire de belles images, bien entendu, parce que c'est nos métiers. Ben, merci pour votre attention.
Voilà, n'hésitez pas, on a une newsletter aussi pour quand on commencera à partager le code ou des choses comme ça. Si vous inscrivez sur le site, dans quelques semaines, quelques mois, on tiendra au courant ceux que ça intéresse. Il y a une question. Alors la question c'était, je la répète pour la vidéo, moi qui travaillais avec des poids lourds comme Maya, pourquoi j'ai décidé d'utiliser Blender? Est-ce que c'est parce que c'est gratuit? Le fait que le logiciel soit gratuit, bon, ça c'est très intéressant pour beaucoup de studios, surtout pour les studios qui démarrent. Quoique aujourd'hui, on voit qu'il y a des tendances à créer des licences pas très chères. Maintenant, pour s'inscrire à avoir toute la master collection d'Adobe, pour 60 euros par mois, on a un poste avec toute la. Ils sont en train de créer des tarifs très agressifs parce que je pense qu'ils sentent aussi l'érosion de ce côté-là. Mais le côté gratuit, un logiciel est gratuit tant qu'on le décide. Après, moi, j'aimerais bien qu'une partie de l'argent qu'on a, du budget qu'on a, reparte aussi à la Blender Foundation, par exemple, quand on en aura. Sur les projets qu'on a, par exemple sur Heracles, on est à perte, donc on peut pas, on peut pas renvoyer, on a pas assez pour nous, donc. Mais sur des projets plus importants, si on arrive à le budgéter, renvoyer. Moi, j'aimerais bien qu'on soit abonné. Il y a les Gold Members ou des choses comme ça pour la Blender Foundation et participer aussi financièrement, en plus du code qu'on pourrait réussir à fournir et la remontée de bugs et tout ce genre de choses, parce que quand je l'ai vu cet été, quand on utilise intensément le logiciel avec des fonctions que pas beaucoup de gens utilisent des fois, parce que c'est les fonctions qui sont faites pour quand on travaille en équipe. D'un seul coup, il y a des bugs qui n'ont jamais été remontés, on les refait remonter, il y a aussi cette participation. Moi j'ai essayé de partir de Paris aussi, MacGuff, ça se trouve à Paris, donc moi, chez Méchant, ça a été fait à Paris, parce que j'avais envie de travailler avec une économie, une façon de travailler différente. Au bout d'un moment, qu'on est 400, 500 autour de... Il y a 400, 500 personnes autour de toi, tu finis par ne pas les connaître, en fait, parce que même si tu fais... moi, je faisais du support dans tous les départements, j'allais voir les animateurs, mais tu n'as pas à discuter avec eux. Après, tu as corrigé le bug, tu pars, et ils continuent à bosser. Et d'un seul coup, on est dans une sorte de grosse machine comme ça, et moi, j'avais envie aussi de retrouver une échelle plus réduite. Et le logiciel libre, il y a ce côté communautaire aussi qui m'intéresse énormément, et... cet été, on a par exemple avec les stagiaires que j'avais en dev, au fur et à mesure qu'on trouvait quelque chose ou un nouveau bug ou quelque chose, bon, soit on le faisait remonter à la Blender Foundation, soit on faisait un post sur Stack Exchange en disant voilà, on avait cette question-là, on y a répondu comme ça. Donc on est aussi sur échanger et partager. Je pense que c'est une valeur qu'on perd aussi beaucoup avec les gros logiciels propriétaires. Pour avoir travaillé avec MacGuff, moi j'ai vu des cas où on faisait remonter un bug à Autodesk. Donc c'est MacGuff, hein, 300-400 personnes, on faisait remonter un bug à Autodesk sur le forum en expliquant voilà, comment on reproduit le bug et comment on pense qu'il pourrait être solutionné. D'un seul coup, le community manager du forum, il dit « Ah ouais, il y a un gars qui avait la même chose, donc je merge vos deux posts. » Et en fait, l'autre post, il y avait trois pauvres lignes sur « Ok, il y a ce bug, mais aucune solution, rien du tout derrière. » Il a juste effacé tout le travail du gars de MacGuff. Et il fait « Si Autodesk n'écoute plus des gens d'une boîte de 400 personnes, qui c'est qu'ils écoutent ?» Et moi, ça m'a beaucoup gêné, cette question-là. Et d'un seul coup, tu vas sur la remontée de bugs de Blender, tu poses un bug report, et 4 heures plus tard, il y a quelqu'un qui dit « Ok, j'ai trouvé la solution. » Souvent, on l'intègre directement dans la branche master et c'est cool. Soit, moi, j'ai eu un cas où on me disait « Alors, ça prend trop de ressources en temps de calcul de mettre ça, mais voilà, t'as le patch. Donc, si tu veux le mettre dans ton Blender et l'utiliser comme ça, tu peux. » Et d'un seul coup, il y a un échange qui existe et qui n'existe plus du tout avec Autodesk, et Adobe, qui envoie la plupart de leur développement en Inde. Et ce n'est pas avec eux qu'on va discuter. Enfin, ça me paraît évident.
Et moi, en revenant aux sources, parce que je suis à peu près de la même génération d'Étienne qui avait fait sa formation ATI en 91, les fondateurs de cette formation Art et Technologie de l'Image l'avait fait en réaction au logiciel 3D de l'époque. Donc eux, ils ont dû faire ça fin des années 70, en expliquant que les logiciels 3D étaient initialement créés pour les simulateurs de vol, pour l'armée, et puis pour l'industrie automobile. Qu'en aucun cas, c'était donc des outils de création. Ils ont donc créé cette formation art et technologie de l'image avec un ancien prof de maths, un d'informatique, un d'art plastique. Et ensemble, ils se sont dit, bon, eh bien, il faut qu'on s'empare du code, il faut qu'on apprenne à écrire nos propres outils, nos propres logiciels, pour pouvoir faire de la création avec. Donc c'est aussi pour ça, cette manie d'ouvrir le capot, d'aller scripter, d'aller coder dedans, nous permet d'avoir... Alors, sans... À l'époque, les profs créaient leur logiciel. Nous, on était censés aussi apprendre à le faire. Maintenant, avec un logiciel open source comme Blender, on est vraiment à l'aise pour sortir aussi du risque de formatage. On n'est plus à l'ère de simulateurs de vol. En attendant, à force de rachat, il y a encore 10 ans, il y avait 4 logiciels, dont un français, peut-être 15 ans plutôt. Et maintenant, à force de rachat, Autodesk a tous les logiciels 3D et on se retrouve avec difficulté. Alors après, on esquive, on va vers le compositing pour essayer de sortir des marques de fabrique, mais on se retrouve avec une espèce de grosse autoroute esthétique même. Et donc, avec un outil ouvert et communautaire comme Blender, il y a aussi cette possibilité esthétique et de se réapproprier l'outil et de le mélanger avec d'autres pratiques aussi.
Moi, je vais juste rajouter un dernier point sur la question des licences aujourd'hui. Il y a quelques années, on achetait une licence, on avait la licence à vie. D'accord ? Donc, tant que tu avais la machine qui permettait de faire tourner le logiciel, tu pouvais ouvrir tes fichiers. Aujourd'hui, avec Adobe et bientôt avec Autodesk, très probablement, on achète une licence, c'est un abonnement. Je finis rapidement. C'est un abonnement. Maintenant, dans 5 ans, quand je vais réouvrir ma licence, ils vont me dire d'accord, mais il faut que tu installes la version courante. Tu ne peux pas installer la version la Creative Cloud 1, il faudra que tu installes la Creative Cloud 5. Est-ce que cette version ouvrira encore mes fichiers? Est-ce que je ne pourrais plus faire tourner la Creative Cloud 1? J'aurais été obligé de mettre à jour au fur et à mesure le logiciel, je ne pourrais pas garder l'ancienne version. Est-ce qu'elle ouvrira encore les fichiers ou est-ce que les plugins que j'ai utilisés pour créer ce fichier fonctionneront? Ou est-ce qu'Adobe existera encore? Est-ce que dans 10 ans, Adobe n'a pas mis la clé sous la porte pour n'importe quelle raison? Parce qu'une grosse boîte, trop gros pour s'effondrer, d'un seul coup, ça s'effondre quand même. Qu'est-ce qui se passe avec leur serveur d'activation? Qu'est-ce qui se passe avec la suite Adobe? Comment on fait pour nos fichiers? Et là, il y a un énorme danger par rapport à ça. Et c'est une des raisons pour moi, dans lesquelles moi je m'intéresse beaucoup aussi à Blender. C'est que bon, si un jour la Blender Foundation décide de partir dans une direction qui ne m'intéresse pas du tout, je peux faire un fork de Blender. Et dire, voilà, moi je vais développer, je vais garder l'ancienne version que je vais maintenir, ou alors avoir une équipe de développeurs qui va commencer à faire des choses sur une version qui m'intéresse, mais j'ai le contrôle dessus. Et je peux encore ouvrir n'importe quelle version. Enfin, on va sur le site de Blender et on peut voir toutes les versions depuis 10 ans, enfin depuis 20 ans même. Toutes les versions sont accessibles, toutes les releases, et voilà. Ah, c'est la fin. Donc.
Oui, mais on a une dérogation.
Prends un peu de retard, d'accord. Petit problème technique pour la conférence suivante.
Des hard soucis. Des gros soucis, oui. Peut-être qu'on peut, puisqu'on a un accès à Internet, aller se balader sur le site d'Eureka où justement il y a une table ronde. La semaine prochaine, il y a les rencontres animation-formation qui auront lieu à Angoulême. Et le premier après-midi, il y a une session consacrée justement à cette question du cloud. Et en fait, ces rencontres animation-formation ont pour but de permettre aux différents acteurs du monde de l'animation, aussi bien les centres de formation que les studios d'animation, et également les partenaires comme Pôle emploi, l'AFDAS, Audience, donc formation professionnelle, tout le régime de l'intermittence qui régit beaucoup le métier d'infographiste. Et donc, sur le premier après-midi, il y a une table ronde justement sur cette question-là, parce qu'il y a eu, c'est important, ça repose sur l'Eureka, le réseau des écoles de cinéma d'animation en France. Il y en a 24, je crois, qui sont référencés par l'Eureka. Et on se retrouve, voilà, il y a eu une négociation avec Autodesk, où, puisque la 3D est enseignée dans ces écoles, certaines privées, d'autres de chambres du commerce, d'autres publiques, finalement, Autodesk a accepté de, je crois, pour 1 euro symbolique.
Non, mais du coup, depuis, c'est devenu gratuit pour toutes les écoles. Mais ouais.
Voilà, donc d'offrir ce qui est intelligent, parce que dans ces écoles-là, donc, Maya est enseignée, et donc ça forme plein d'infographistes qui peuvent manipuler. Après, il se posait la même question pour Adobe. Et là, est-ce que tu veux en parler de ça?
Là, l'Eureka, à la fin du printemps dernier, elles ont les différentes écoles, donc les 24 écoles, ça inclut Supinfocom, les Gobelins, Paris 8, d'où on vient.
L'ESMA qui est ici,
l'ESMA,
aussi à Toulouse.
Montpellier-Toulouse. Donc, c'est quand même les grosses écoles. Pour rentrer dans le réseau, il faut avoir un certain nombre d'années, il faut être reconnu par les autres écoles. Donc, c'est les grosses écoles. Elles ont signé ensemble une lettre ouverte à Adobe par rapport à ces questions-là de licence. Depuis la rentrée, par exemple, Paris 8 a décidé de ne plus avoir aucune licence Adobe sur son parc informatique. Pas Paris 8 entier, j'entends Arrêt Technologie d'Image pour l'instant. Les élèves n'ont plus accès à la suite Adobe par rapport à ce problème de licence que j'évoquais juste avant, qui est pour eux quelque chose de très grave. Les autres écoles sont très intéressées aussi par voir ce qui se passe et est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Moi, je vois que Blender évolue quand même là depuis la rentrée. Gobelin, l'école de l'image, donc la fameuse école, propose en formation continue une formation à Blender. Et ils ne le font pas par altruisme. Hein. Donc, enfin, j'ai encore des amis à Gobelin. J'avais des amis à Gobelin plutôt.
La difficulté, c'est que ces studios qui fonctionnent, qui travaillent depuis des années, c'est la poule et l'œuf, hein, avec des pipelines, des chaînes de fabrication qui reposent sur Maya, sur Photoshop, sur After, etc. C'est quand même très compliqué, qui ont développé des ponts, des outils, justement, pour que tous ces logiciels fonctionnent bien ensemble. C'est compliqué de changer ou d'intégrer de nouveaux outils à l'intérieur. Et l'autre question qui se pose, c'est ce qui est remarqué par les employeurs, c'est où va-t-on trouver les compétences ? Voilà, si tout d'un coup on se lance dans un projet de long métrage, et même, enfin, même si c'est une publicité, si c'est une production courte, généralement c'est vraiment tout terrain, il faut pouvoir modifier très vite, c'est quand même beaucoup de pression, ou bien un long métrage qui est plutôt une course de fond, où est-ce qu'on va trouver voilà, les compétences ?
Donc là, la question, c'est comment on voit Blender aujourd'hui de façon par rapport au studio. Ouais.
Ouais. Oui, et de l'utiliser, est-ce que ça ne va pas l'emmener vers des gros, voilà, des grosses machineries?
Alors, c'est très intéressant parce que moi, aujourd'hui, je trouve que Blender est... alors, il y a des choses qui ne sont pas encore fonctionnelles aussi bien que dans Maya, par exemple. Maya a aussi 20 ans d'histoire, des gros studios, beaucoup de retours. Donc, il y a des choses qui, évidemment, ne sont pas encore au niveau dans Blender. Mais il y a plein de choses dans Blender. Enfin, dans Blender, on se rend compte quand on l'ouvre qu'on peut tout faire. Et c'est assez hallucinant le nombre de modules qui existent pour le poids que prend le projet au final. Je pense qu'ils ont bien dosé cette question-là. Est-ce que ça risque de devenir une usine à gaz ? Je pense qu'ils vont pousser plutôt le système d'add-on, par exemple, en disant, bah, si tu as besoin de quelque chose, tu l'actives. Et ils sont en train de... D'ailleurs, à la Blender Conference cet été, enfin cet été, là, il y a 2 semaines, pas cet été. On est dans le sud, alors j'ai l'impression que c'est encore l'été. ils parlaient beaucoup de justement, dans les prochaines versions de Blender, de créer des systèmes très modulables, tu actives les morceaux que tu veux et tout ça. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont en tête. Concernant la question de comment Blender se positionne par rapport à Maya, bon, il y a des choses pour lesquelles il y a du retard, c'est évident. Le système de liens, par exemple, pour moi, me paraît outrageux. Mais là, justement, ils sont en train de prévoir un long métrage, et ils se rendent compte qu'ils ont des limites et ils ont dit, OK, on va bosser sur le système de liens, on va améliorer le système de proxy et ce genre de choses. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, un truc qui me manquait, qui manque encore, c'est un pont avec les autres logiciels. Ça se passerait à travers, pour moi, Alembic, qui est aujourd'hui le nouveau standard de cache et de pont entre différents logiciels. Ils sont en train de bosser dessus. Je pense qu'une fois que ce genre d'outil sera disponible dans Blender, beaucoup de studios pourront s'intéresser et se dire « Ok, moi j'ai déjà ça, ça marche déjà très bien jusqu'à l'animation. Je suis intéressé par utiliser Cycles, par exemple, pour faire le rendu. Je peux passer facilement grâce à un standard reconnu et puissant, parce que Alembic, c'est un format très intéressant, passer de Maya à Blender sans que tous mes trucs pètent, par exemple. Ça, je pense que c'est un pont qui manquait et qui arrive, donc ça, c'est très intéressant. Moi, j'avais commencé à discuter sur les problématiques qui me concernent, moi, de créer des outils. Je trouve que créer des widgets ou des choses comme ça dans l'interface, c'est pas pénible, c'est un peu compliqué. On est limité à ce que l'interface propose au niveau des widgets. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais par exemple, pour faire juste un menu déroulant avec une liste d'options, ça a été quand même la croix à la bannière. On doit faire quand même des trucs assez un peu bizarres au début pour comprendre. Quand on est pressé en plus, tu n'as pas le temps de faire les trucs, alors tu vas les faire salement et ça risque de poser des problèmes avec d'autres logiciels. J'ai commencé à discuter avec eux, mais c'est vrai que leur philosophie, il n'y a pas de système de fenêtres qui se superposent dans Blender, c'est très propre. Hein, Blender, comparé à Maya, on ouvre Maya et très vite on a 10 fenêtres et très vite c'est vraiment le bordel. C'est très intéressant, mais d'un seul coup on a une limite et on doit jouer avec ça et qu'on doit faire des interfaces larges, par exemple, pour des questions de, on a un tableau affiché avec plein de trucs. Ça peut arriver sur un gros projet, surtout. Là, je me retrouve un peu les mains liées. J'aimerais bien que ce soit un peu débridé de ce côté-là, par exemple. Mais c'est des problématiques qui intéressent vraiment, a priori, les studios qui vont avoir des gens comme moi qui seront dédiés à faire ce genre d'outils. Quand tu es tout seul en train de travailler chez toi, tu ne crées pas ce genre d'outils, tu ne crées pas d'interface, tu connais ta façon de travailler. Ça, c'est un truc que, globalement, voilà, ma conclusion actuelle de Blender, c'est que c'est un logiciel qui est très, très intéressant, qui a été développé énormément autour de gens qui travaillaient tout seuls et qui n'avaient pas de problématiques d'équipe. Et là, on commence d'un seul coup, quand il y a un studio qui arrive, quand il y a un gros projet qui arrive, il y a des problématiques d'équipe qui arrivent. Et par exemple, le système de layers qu'on a vu tout à l'heure, les layers pour le rig ou les layers pour les render layers ou les layers juste pour l'interface, pour cacher les éléments. Le fait qu'ils ne soient pas nommés, par exemple, moi, je travaille de ma façon, je mets les éléments dans le layer qui m'intéresse, je passe à quelqu'un d'autre et l'autre, il doit comprendre comment je travaille, moi. Et si tout le monde fait ça dans l'entreprise, ça commence à poser des vrais problèmes. Ça peut commencer à poser des vrais problèmes. Et ça, c'est là qu'on voit ce genre de choses où d'un seul coup, on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas eu assez de retours de studios ou d'équipes qui ont travaillé ensemble pour dire attention, les gars, là, si c'était nommé, je pourrais savoir que ce render layer, c'est l'occlusion, par exemple. Je n'ai pas, moi, à réouvrir tous les layers, à chercher ceux qui m'intéressent et tout, en cliquant sur les petites icônes. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. Il y a encore du travail et je suis très content que la roadmap qu'ils ont présentée pour Gooseberry m'intéresse particulièrement parce qu'il y a beaucoup de ces questions-là qui sont peut-être pas répondues dans l'année, mais sur lesquelles ils travaillent et c'est super pour ça. Maintenant, voilà, il y a encore du travail et je pense que la communauté est là aussi pour ça, pour aider, c'est ça qui est génial avec de l'open source.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup.